Et c'est Frédéric Barrère qui vous présente le journal. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Au sommaire ce soir, la victoire écrasante du non à l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Sur fond d'abstention massive, les loyalistes se félicitent du résultat et célèbrent la victoire sobrement. Pour les indépendantistes, cela montre qu'il y a toujours deux blocs. Emmanuel Macron s'est réjoui de la victoire du non. La France est plus belle, selon le président, car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester. Une période de transition de 18 mois s'ouvre pour définir le nouveau statut de l'archipel. Nous serons à Nouméa dans un instant. Dans ce journal également, les tornades meurtrières aux États-Unis, au moins 80 morts dans le seul état du Kentucky. Les secours sont à la recherche de survivants. La politique ce week-end avec le meeting d'Anne Hidalgo à Perpignan. Vos rendez-vous du 19h, la page sport avec le Grand Prix de Formule 1 incroyable d'Abu Dhabi et la victoire in extremis de Max Verstappen. Il arrache également dans le dernier tour son premier titre de champion du monde de Formule 1, une victoire dingue.
Mon équipe sait à quel point je les aime. On vient de passer 10 ou 15 ans ensemble et je veux rester avec eux pour le reste de ma vie.
Et en fin de journal, on vous parlera des pulls moches de Noël. Un véritable engouement, pas toujours très éco-responsable. La météo, gris au nord, ensoleillé au sud. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux, Noël Briam.
Bonjour, je m'appelle Raphaël et j'ai 6 ans. Et je voudrais savoir si un jour on aura des voitures volantes.
Les petits bateaux, après ce journal.
France Inter.
L'actualité ce soir nous conduit d'abord en Nouvelle-Calédonie avec la victoire massive et sans surprise du non à l'indépendance. Le non l'emporte avec 96,49% des voix. Mais il faut également préciser que la participation qui s'établit à 43,9% des voix est en chute libre par rapport au référendum précédent. Les indépendantistes ayant appelé à boycotter le scrutin dans le camp loyaliste. On se félicite du résultat côté indépendantiste. Le résultat montre qu'il y a bien toujours deux blocs en Nouvelle-Calédonie. Reportage sur place à Nouméa, Sandrine et toi en deg.
Sous une chaleur écrasante, Marie, 64 ans, est venue glisser un bulletin non dès l'ouverture de son bureau de vote dans le centre de Nouméa.
C'est la France qui enrichit la Nouvelle-Calédonie. Côté économique, il y a les polices, il y a les gendarmes, il y a les médecins, il y a tout.
Pour ce métis, moitié kanak, moitié européen, le oui à l'indépendance était aussi inenvisageable.
Certains leaders du parti indépendantiste, à l'heure actuelle, ils sont où ? C'est facile de dire à la base, faites ceci, faites cela.
À quelques kilomètres, au Mont d'Or, dans l'agglomération de Nouméa, Philippe et ses amis commentent depuis leur voiture les contrôles de gendarmes autour d'un rond-point.
Ils croient que les canards sont des terroristes.
Plutôt que d'aller voter, lui a suivi les consignes des dirigeants indépendantistes. Pour Lysiana, ça a été après-midi à la plage.
Tranquille, voilà. J'ai perdu beaucoup de familles pendant le Covid, donc il fallait vraiment reporter le référendum.
Le deuil est un prétexte selon Sonia Baques, la présidente de la province sud, qui a fêté la victoire du non hier soir avec ses partisans.
Ce troisième référendum, ce sont les indépendantistes qui l'ont demandé. Ils ont décidé de ne pas y participer, j'en suis désolée, mais très clairement la France a gagné ce soir. Maintenant il faudra construire quelque chose de nouveau.
Un destin commun, dit-elle, mais dans la République.
Sans surprise donc, le non l'emporte. Les indépendantistes ne reconnaissent pas ce résultat du vote. C'est dans une locution télévisée. Le président de la République s'est lui, au contraire, empressé d'entériner ce non à l'indépendance. Simon Le Baron.
Non, pour Emmanuel Macron, le boycott de plus d'un électeur sur deux ne remet pas en cause le résultat.
Les Calédoniennes, les Calédoniens ont choisi de rester français. Ils l'ont décidé librement.
Car ce qui compte pour le chef de l'État, c'est l'ensemble du processus lancé en 88 avec les accords de Matignon.
30 ans, 3 consultations, un processus unique au monde sous le regard des Nations Unies.
Pas question donc de revenir dessus. Mais aussitôt, il tend la main aux indépendantistes qui refusent de reprendre le dialogue avant l'élection présidentielle.
Le ministre des Outre-mer est actuellement en Nouvelle-Calédonie, aux côtés des Calédoniens, à ma demande. Il est à votre écoute. Dès maintenant, pour préparer cette nouvelle étape.
Une période de transition de 18 mois pour définir les nouvelles relations entre Paris et Nouméa. La France reste donc bien présente dans cette région devenue centre névralgique de la lutte d'influence mondiale.
Nous aurons à construire une place pour la Nouvelle-Calédonie dans cette région de l'Indo-Pacifique en pleine recomposition et soumise à de fortes tensions.
Le président peut s'en réjouir.
Ce soir, la France est plus belle, car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester.
Même si ce troisième référendum ne règle pas, loin de là, le débat sur l'avenir d'une terre toujours profondément divisée.
Et les candidats de droite et d'extrême droite à la présidentielle saluent ce résultat et la victoire du non. À gauche, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, pour la France insoumise, estime qu'à cause de l'abstention, ce résultat n'est pas valide. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, sera demain l'invité de France Inter à 6h20. L'actualité ce soir est encore marquée par les tornades meurtrières aux États-Unis, des tornades en série qui ont dévasté 6 États du centre-est. Au moins 80 personnes sont mortes dans le seul État du Kentucky et des fouilles désespérées se sont poursuivies toute la journée pour retrouver d'éventuels survivants. On retrouve en direct de Mayfield, cette ville de Kentucky particulièrement dévastée. On retrouve notre correspondant. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir.
Mayfield, dont la maire disait ce matin que sa ville ressemble à un tas d'allumettes après la tornade.
Oui, c'est ça, un tas d'allumettes, un paysage de désolation avec au milieu une armée de volontaires qui sont venus du Tennessee, du Missouri, de l'autre bout du Kentucky pour aider d'abord à accéder à ce qui reste de cette ville. Tony et son gendre, par exemple, ont chargé leur mini pelleteuse à l'arrière de leur pick-up sur la remorque. Ils ont embarqué tronçonneuse, cisaille, hache, et ils ont roulé 2h30 pour venir ici prêter main forte. Ils essayent de déblayer en ce moment la route qui mène à 4 maisons, enfin à leurs ruines, puisqu'elles sont complètement à terre. Il y a un arbre dont le tronc fait bien presque 3 mètres de diamètre qui a été déraciné et qui est en travers du chemin. Les morceaux de tôle du garage automobile à côté sont enchevêtrés dans les branches. Un camion de déménagement est couché sur le flanc contre l'arbre. Les câbles électriques sont emmêlés dans tout ça. Et Tony et Curtis travaillent, tronçonnent, l'un dans la pelleteuse, l'autre devant, avec les outils. Ils ne connaissent personne ici, mais Curtis explique qu'il a été élevé comme ça, dans l'esprit de solidarité. C'était donc évident pour lui d'être là, comme pour des centaines d'autres volontaires. À 63 ans, Tony, lui, en a vu d'autres. Il avait déjà pris la route pour aider, encore, à l'époque, vers la Nouvelle-Orléans, qui était inondée. C'était en 2005.
Sébastien Paour, en direct de Mayfield, dans le Kentucky. La politique, ce dimanche, avec le premier grand meeting de campagne d'Anne Hidalgo à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, la candidate socialiste à l'élection présidentielle, qui ce matin encore, dans les colonnes du journal du dimanche, plaidait pour une primaire à gauche, s'est présentée cet après-midi comme la candidate de la main tendue. L'histoire le montre, a dit Anne Hidalgo. L'union, c'est ce qui fait la gauche. Et cet après-midi, sur les terres du Rassemblement national, Anne Hidalgo a dénoncé une droite qui court après l'extrême droite. Sur place à Perpignan, Benjamin Mathieu.
Anne Hidalgo! Elle entre dans la salle, acclamée par un millier de militants, déterminés et souriantes, en veste noire et haut blanc, sobre. Sur scène, derrière elle, sont écrits ces mots « Réunir la France ». C'est ce message qu'elle est venue porter ici, un fief de l'extrême droite, Perpignan, une ville symbole.
Ces oiseaux de mauvaise augure, ces prophètes de malheur, ces marchands de haine, je ne les laisserai pas s'accaparer la France. Je ne les laisserai pas l'entraîner au fond de leur fantasme morbide, l'étouffer sous leur peur et leur lâcheté.
Mais la maire de Paris, dont la campagne patine dans les sondages, est venue aussi pour rappeler que seul aucun candidat de la gauche ne peut l'emporter.
J'ai proposé publiquement, sincèrement, le seul chemin qui permette de se rassembler aujourd'hui, celui de la primaire avant le premier tour. Là où les appareils politiques n'ont pas réussi, seuls les citoyens peuvent aujourd'hui nous rassembler.
Anne Hidalgo réitère donc son appel, pour le moment balayé par l'insoumis Jean-Luc Mélenchon et l'écologiste Yannick Jadot. La socialiste tente de leur mettre une pression maximale. L'union de la gauche est un combat, pour le moment, bien mal emmanché. À Perpignan, Martin Troadec, Benjamin Mathieu pour France Inter.
Et à la gauche du PS, il n'est bien sûr pas question de primaire, la proposition a été rejetée, mais plutôt d'un rapprochement, mais pas avec tout le monde et sur un thème très précis et sensible. C'est en tout cas ce que déclare aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise. Insoumise propose aux communistes un référendum sur le nucléaire dans l'optique d'une candidature commune à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon souhaite sortir du nucléaire à l'horizon 2045. Le candidat communiste Fabien Roussel préfère lui la mise en place d'un mix énergétique avec du nucléaire et du renouvelable. Jean-Luc Mélenchon, à la mi-journée dans Question politique sur France Inter, est donc prêt à dire oui à ce référendum pour ou contre le nucléaire.
Si j'étais président de la République, je veux bien m'engager, si les communistes me le demandent comme condition pour que nous ayons un candidat commun, je suis prêt à dire, eh bien oui, nous aurons un référendum pour ou contre le nucléaire. Et moi, Jean-Luc Mélenchon, président de la République, je dirais, je vous conseille d'arrêter le nucléaire.
On n'est plus du tout dans le même projet. Là, ça veut dire que vous acceptez de mettre des dizaines de milliards sur le grand carénage. On est dans autre chose.
Raison. C'est bien ce que je dirais en faisant campagne pour la sortie du nucléaire. Je leur dirais, écoutez, c'est pas raisonnable de continuer. Ça coûte un fric fou, on peut faire
oui,
tout autre
chose. Oui, mais vous êtes prêt
chose.
À adopter une autre...
Mais ça s'appelle la démocratie, madame.
Jean-Luc Mélenchon dans Question politique. L'épidémie de coronavirus avec cette déclaration d'Olivier Véran au journal Le Parisien. Nous ne nous dirigeons pas vers un confinement, explique le ministre de la Santé, précisant que le pic de la cinquième vague est en train d'être atteint. Olivier Véran recommande malgré tout de restreindre ses contacts avant Noël. Et le débat en France se poursuit sur la vaccination des enfants. Hier, le Premier ministre Jean Castex estimait que la vaccination des 5-11 ans est une nécessité et il faut effectivement en venir à cette vaccination, selon le professeur Robert Cohen, pédiatre infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil et président du Conseil national professionnel de pédiatrie.
On ne voudrait pas confondre vitesse et précipitation. Premièrement, d'ici quelques semaines, quelques jours, on aura les données de pharmacovigilance américaine sur 5 ou 6 millions d'enfants qui nous rassureront sur la tolérance. Ça, c'est un point essentiel. Deuxième point, et si cette tolérance est bonne, eh ben, on pourra proposer logiquement à nos enfants la vaccination. On sait déjà qu'il y a peut-être 30-40% de nos enfants qui ont déjà des anticorps contre le coronavirus, qui n'auront pas besoin forcément de 2 doses. Le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, les services de soins pédiatriques, comme beaucoup d'autres spécialités, mais encore plus en pédiatrie, sont surchargés. Donc, les enfants, dans l'entourage d'un député déprimé, on n'a aucune arrière-pensée, on peut y aller dès maintenant.
Robert Cohen avec Jules de qui c'est ce soir. Le Royaume-Uni relève à nous son niveau d'alerte face au Covid du rang 3 au rang 4. C'est une recommandation des autorités sanitaires britanniques face à la propagation rapide du variant Omicron. Une affaire embarrassante pour la police en Seine-et-Marne alors que le département fait face à une recrudescence des règlements de compte. 2 fonctionnaires de police de Seine-et-Marne ont été placés en détention provisoire début octobre, comme le révèle le journal du dimanche. Aujourd'hui, ils sont soupçonnés d'avoir vendu au marché noir des munitions du commissariat de Melun à des délinquants du département. Jean-Philippe Degnaud.
Tout est parti d'une intrigante découverte sur la scène d'un règlement de compte à Torcy il y a 2 mois. Dans le chargeur du pistolet de la victime, des munitions portent une inscription spécifique qui révèle qu'elles sont la propriété de la police nationale. La PJ de Versailles et l'IGPN saisies remontent à la source. Ces cartouches proviennent d'un lot destiné à la sécurité publique de Seine-et-Marne. Un policier du commissariat de Melun en charge de la formation au tir et un agent administratif sont interpellés au moment où ce dernier s'apprêtait à effectuer une transaction de munitions. À son domicile, les enquêteurs retrouveront un stock de 500 cartouches détournées. Les 2 fonctionnaires sont écroués pour association de malfaiteurs et vol en bande organisée, tandis que l'enquête s'est étendue à la recherche d'autres éventuels complices ou bénéficiaires de ce trafic. Déjà 3 autres personnes sont mises en examen. Parallèlement, un audit interne tente de déterminer l'ampleur des failles dans la gestion du matériel de l'armurerie de la police de Seine-et-Marne.
Jean-Philippe Degnaud, chef du service police-justice de France Inter. (Rire) 19h14 sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Guillaume Batin.
Bonsoir Frédéric.
Max Verstappen, nouveau champion du monde de Formule 1.
Max Verstappen, 24 ans, a passé la ligne d'arrivée en tête du Grand Prix d'Abu Dhabi cet après-midi. Il est monté sur la première marche du podium. La larme a coulé sur sa joue pendant que l'hymne néerlandais le faisait vibrer. Il a hurlé de joie dans son casque. Oui, mais Mercedes a porté 2 réclamations sur la fin de course complètement dingue, notamment sur le fait que Verstappen a été autorisé autorisé à dépasser 5 retardataires après l'accident de Nicolas Latifi. De quoi donner un goût amer à cette victoire, Adel Belloumri, bonsoir.
Bonsoir.
Parce que le meilleur aujourd'hui, c'était bien Lewis Hamilton.
Hamilton, deuxième sur la grille de départ, dépasse Verstappen en pole position dès le premier virage. À partir de là, le pilote Mercedes prend de l'avance, 15 secondes d'écart sur le pilote Red Bull. Hamilton enchaîne alors les meilleurs tours en course. Vient l'épisode Sergio Pérez, coéquipier de Verstappen qui ferme la porte à Hamilton. Le Britannique perd alors son avance, tout est à refaire. La course est ralentie à deux reprises, d'abord avec l'abandon de Giovinazzi, mais surtout avec le crash du pilote Nicolas Latifi à 5 tours de l'arrivée. La voiture de sécurité intervient, mais les tours comptent toujours. Au 58e et dernier tour, la course reprend normalement. Avec des meilleurs pneus, Verstappen double Hamilton et remporte le Grand Prix d'Abu Dhabi. Une course au goût amer pour Lewis Hamilton, selon Lionel Froissart, journaliste spécialiste de Formule 1.
C'était assez paradoxal parce que Lewis Hamilton a dominé le Grand Prix. Il a pris un meilleur départ, il a mené toute la course. La stratégie était parfaite, tout s'est joué de manière incroyable dans ce dernier tour. Alors que Lewis filait vers un 8e titre qui paraissait assez facile, mais il y a eu ce coup du sort. Et ironie du sort en plus, c'est une voiture équipée d'un moteur Mercedes qui a provoqué la perte de Lewis Hamilton et de sa Mercedes.
Mais le pilote britannique préfère la jouer fair play à la fin de la course.
Congratulations to Max and to his team.
Félicitations à Max et son équipe. Ils ont fait un travail incroyable cette année.
Oui, mais voilà, Verstappen, cette saison, c'est 18 podiums, un record, 10 Grands Prix remportés et deux fois plus de pole position qu'Hamilton.
Et une réunion a rassemblé les deux équipes tout à l'heure à 16h45 pour analyser ces deux réclamations de Mercedes. Pour l'instant, pas de retour de la Fédération Internationale de l'Automobile. La saison 2022 débutera le 19 mars avec le Grand Prix de Bahreïn.
Victoire néerlandaise en Formule 1, en tout cas pour l'instant, et victoire française en ski alpin.
C'est Clément Noël qui a remporté le slalom de Val d'Isère en début d'après-midi. Il a littéralement écrasé la concurrence. 1 seconde 40 d'avance sur Christopher Jakobsen, le second, 1 seconde 85 sur le Croate Philippe Zubkic, le troisième. Clément Noël.
C'était un grand moment d'émotion de passer la ligne, de voir du vert et puis de voir tout ce public qui était super content pour moi. Je sais que je connais plein de gens ici, avec ma famille et tout, donc vraiment gros moment quand je passe la ligne et je vois du vert avec cette avance, c'était vraiment bien. C'est une super piste, c'est une piste mythique, mais je m'étais jamais projeté comme ça. Mais c'est sûr que de gagner à Val, ça fait partie des moments forts de ma carrière pour le moment, parce que voilà, j'ai habité ici, je connais plein de gens, je suis au club ici, c'est ma deuxième maison et donc voilà, les gens sont contents et c'est génial. Et c'est la meilleure manière de débuter la saison. La première course, on veut vraiment arriver en bas pour voir où on en est par rapport aux autres. L'année dernière, je l'avais pas fait et ça met un petit peu dans le doute. Donc là, forcément, la confiance, elle est au max. Et puis, on va essayer de capitaliser là-dessus, d'essayer de monter le niveau parce que les autres vont le faire. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que pour l'instant, je skie bien.
Victoire pour Clément Noël à Val d'Isère dans le slalom. 39e position lors de la première manche pour Alexis Pinturo, éliminé lors de la 16e en biathlon. L'équipe de France a terminé deuxième du relais à Hochfilzen en Autriche. Fabien Claude, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet laissent la victoire à la Norvège.
Jour de récupération pour l'équipe de France féminine de handball à Barcelone où les Bleus disputent le championnat du monde.
Et après 5 victoires en 5 matchs, les Bleus sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Ce sera mercredi, mais le tour principal n'est pas terminé. Reste la Russie demain soir, histoire de terminer en tête du groupe. Mais le sélectionneur Olivier Krumholz en profite pour faire tourner son équipe. Jean-Pierre Blimaud à Barcelone pour France Inter.
La décision la plus spectaculaire d'Olivier Krumholz, c'est de faire venir directement de Metz Orlan Kanor. Privé de Jeux Olympiques à cause d'une blessure au tendon d'Achille, la Guadeloupéenne, qui a été l'une des artificières en chef de ces dernières années, fait donc son retour 8 mois après sa dernière sélection. Et puis il y a Laura Flip, l'Alsacienne, en a fini avec son entorse à la cheville droite. Elle pourrait être alignée face aux Russes demain ou à défaut en quart de finale mercredi. Car il y a urgence dans un secteur offensif en Berne, même si pour Olivier Krumholz, les Bleus s'en sont très bien sortis pour l'instant.
Ça montre pour tout le monde que c'est fragile. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on a gagné facilement 3 matchs, un peu plus difficilement, et que celui-là, on a encore gagné 3 buts, avec un parcours de folie. Ne l'oublions pas, on joue que des équipes des Jeux Olympiques, de très belles équipes. On s'en sort très bien et maintenant, on va se lâcher.
Se lâcher, ce sera donc d'abord demain face à la Russie, une équipe que deux joueuses françaises connaissent bien, Grace Zahadi et Béatrice Edwige, qui évoluent dans le club russe de Rostov-sur-le-Don. Barcelone, Jean-Pierre Blimaud, France Inter.
Et ce match France-Russie, ce sera demain soir à 20h30 en attendant les quarts de finale mercredi.
On va maintenant s'attarder sur le calendrier. Côté athlètes et côté organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le comité d'organisation des Jeux va dévoiler demain le concept de la cérémonie d'ouverture. Les dirigeants de Paris 2024 veulent marquer les esprits et l'histoire avec un événement hors du commun, spectaculaire et inoubliable. On verra ça demain. Côté sportif, les athlètes sont déjà en pleine préparation et la médaille est déjà dans la tête, notamment du paracycliste Raphaël Beaugilet. Il a obtenu le bronze en tandem sur le kilomètre cet été à Tokyo lors des Jeux paralympiques. Mais voilà, son pilote n'est plus là. Il a pris sa retraite et Raphaël Beaugilet a donc dû trouver un nouveau partenaire, un ancien espoir du BMX reconverti à la piste. Raphaël Beaugilet et Quentin Caléron s'entraînent ensemble depuis déjà un mois. Jérôme Val les a retrouvés dans la préparation de ce grand défi. C'est le long format de ce soir.
Ok pour moi, c'est parti.
Visière baissée, le regard porté au loin, les deux cyclistes habillés du cuissard de l'équipe de France enchaînent les départs sur la piste en bois du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est seulement le septième entraînement en commun pour Raphaël Beaugilet et son nouveau pilote, Quentin Caléron.
Les deux, trois premières séances, c'était plus du réglage. En fait, moi, j'avais jamais eu quelqu'un à l'arrière. Hein. C'est autre chose, quoi. J'ai l'impression plus d'être sur un camion que, que sur mon vélo.
Raphaël Beaugilet est atteint d'une maladie dégénérative du nerf optique.
J'ai perdu la vue progressivement à l'âge de 20 ans et pour schématiser, je vois flou comme si j'étais tout dans le brouillard. J'ai à peine un dixième à chaque œil. Je peux pas faire de vélo tout seul.
Le choix du pilote, celui qui est assis devant et qui tient le guidon, est donc primordial pour la réussite sportive du duo.
C'est vrai qu'on échangeait de temps en temps, on se croisait ici. Bah, je pense que c'est un gars bien. Après, il faut encore que je le découvre, mais voilà. C'était le seul aussi à échanger avec nous, à s'intéresser... au sujet, quoi.
Cela fait une décennie que Raphaël Beaugilet pratique le tandem, alors que c'est une troisième carrière qui s'ouvre pour Quentin Caléron. Ancien espoir en BMX, il a disputé les Jeux de Londres. Ancien pistard mais écarté du groupe France, il veut maintenant saisir sa chance d'aller décrocher une médaille olympique.
C'est aussi une opportunité là que j'ai qui est exceptionnelle, je trouve, et je la saisis à pleine main. Pour moi, les Jeux paralympiques, ça aura exactement la même saveur que les Jeux Olympiques. C'est un rêve d'enfant et je compte bien le réaliser.
Même s'il reste un peu plus de 2 ans et demi avant l'échéance de Paris 2024, le temps commence à compter. D'autant que les moments pour se retrouver ne sont pas si nombreux, regrette Raphaël Beaugilet.
Pour l'instant, on a dû avoir que 2 créneaux où on a pu rouler tout seul en piste. Sinon, on roule sur des créneaux publics. Donc, ce qui veut dire qu'il peut y avoir 50 vélos qui tournent sur la piste. Déjà, c'est dangereux. On ne peut pas faire nos efforts à bloc. Il faut que la Fédération Française Handisport réserve des créneaux spécialement pour nous. Ça coûte très cher. Il faut tout ça, que ça se mette en place.
En attendant, le binôme apprend à se connaître pour que 2 cyclistes ne fassent plus qu'un sur le vélo, Quentin Caléron.
Rien qu'en ayant roulé 7 fois ensemble, j'ai appris un peu plus sur moi-même qu'en 2 ans à faire de la piste par rapport à mon pilotage et tout ça. Je pédale beaucoup avec mes épaules comme ça, alors que en tandem, si je bouge les épaules comme ça, derrière, il est secoué comme un prunier, quoi, donc... Ça fonctionne pas.
Et le premier test, ce sera le week-end prochain lors d'un Grand Prix en Suisse.
Jérôme Val, et pour finir, une dernière information, Guillaume Batin avec un détour au Portugal.
Il faudra attendre demain matin 8h à cause du brouillard. Ça a été décalé pour voir ces images magnifiques et impressionnantes de surfeurs qui décollent, tractés par des jet skis sur des vagues de plus de 20 mètres de haut. 3 Français prendront le départ de cette compétition internationale. Éric Rebière, Pierre Rollet et Justine Dupont.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine, et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient avec, dès demain, le coup de pouce aux ménages avec les premiers versements de l'indemnité inflation de 100 euros et le versement également à partir de demain du chèque énergie, 100 euros également. La prime de Noël sera, elle, versée mercredi. À noter sur l'agenda de demain également, la bataille du rail qui est lancée. Trenitalia, l'opérateur italien, ouvre ses réservations sur la ligne Paris-Lyon-Milan et à partir de samedi prochain, Trenitalia proposera 2 allers-retours par jour sur l'agenda politique. Emmanuel Macron se rend en Hongrie demain avant Bruxelles et le Conseil européen de jeudi. Jean Castex, le Premier ministre, sera lui à Marseille demain pour le suivi du plan Marseille en grand. Les rendez-vous de la campagne présidentielle de la semaine en Outre-mer. Marine Le Pen se déplace à Mayotte, elle y sera mercredi. Jean-Luc Mélenchon sera lui vendredi pour un meeting à Fort-de-France. À la page de mercredi sur l'agenda et sur un tout autre sujet, c'est le jour des sorties, des films au cinéma et elle affiche le nouveau Spider-Man No Way Home, le 3e opus de la saga où l'homme araignée doit faire face à des ennemis venus d'un univers parallèle, un film avec le label Marvel, autant dire une garantie de succès, Loïc Piala.
de ma faute. Je peux pas sauver tout le monde.
La bande-annonce de Spider-Man No Way Home a été visionnée 355 millions de fois en 24 heures. Aux États-Unis, les préventes de billets ont fait exploser les sites de réservation. Il faut remonter à 2019 et Avengers Endgame, un autre film Marvel, pour retrouver ce type d'enthousiasme. De quoi espérer le milliard de dollars de recettes, des chiffres oubliés depuis 2 ans.
Tu as altéré le sortilège qui devait faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man.
Car Marvel, abonné au record, a vu sa machine à triomphe légèrement enrayée par la pandémie. Shang-Chi, Black Widow, Eternals ont gagné beaucoup d'argent sans atteindre les sommets habituels. Autre problème, la Chine semble se lasser des super-héros à l'américaine. Hollywood cumule les désillusions sur ce marché juteux. Les deux plus gros succès mondiaux de 2021 sont d'ailleurs pour l'instant des productions chinoises, de films de guerre de Battle of Lake Changjin et la comédie I, Mom, avec des recettes supérieures à 800 millions de dollars au box-office local. À Los Angeles, Loïc Pilla pour France Inter.
Et on terminera la semaine en vacances avec le début samedi des vacances de Noël. Noël, justement, vendredi prochain, c'est la journée internationale du pull moche de Noël. La mode vient des États-Unis et peu à peu elle s'impose chez nous. Et il y a aujourd'hui un véritable engouement pour les pulls moches qui s'achètent et se revendent parfois 3 fois plus cher que le prix d'achat. Et cette mode du pull moche n'est pas toujours très éco-responsable. Sandrine Guillot et Sophie Leclerc à Biarritz viennent de monter leur entreprise de pulls. Elle s'appelle Mon Pull Moche et leur démarche s'inscrit dans une logique de développement durable. Elle ne tricote pas, elle recycle. Sandrine Guillot, Sophie Leclerc.
Ça fait maintenant plus de 4 ans là, qu'on a eu cette idée de mettre en place des créations de pulls moches de Noël avec un concept pour nous plutôt unique puisqu'on travaille sur de la pièce unique, de la pièce de seconde main qu'on va décorer, recréer et lui apporter une deuxième vie, un nouveau souffle. C'est des pulls qu'on va plutôt chiner à travers des œuvres caritatives. On va récupérer du pull plutôt de bonne qualité hein, sur lesquels on va venir nous apporter une nouvelle création.
Alors à quoi ressemblent vos pulls de Noël ?
Alors on a plusieurs thématiques. On essaye toujours de raconter une petite histoire autour du monde de Noël. On a des pulls plutôt dans le type repas de Noël avec des pulls d'Inde, des pulls homards. On a aussi tout un monde autour des gnomes, on a aussi des pulls avec un esprit, avec des animaux, parce qu'on se rend bien compte aussi que les animaux font partie de notre vie, notre petite famille.
Alors j'imagine, Blandine, que économiquement c'était une bonne idée. En revanche, écologiquement, il y a beaucoup de critiques. On parle d'un désastre écologique du pull moche de Noël. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Le désastre écologique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a un tel engouement du pull moche. Il y a beaucoup de fabrication, effectivement, Asie, sur des pulls, on en trouve partout. Alors que l'esprit même du pull moche de Noël à la base, c'était des pulls tricotés par les grands-mères, avec du coup dessus leur propre délire, hein, des têtes de rennes, des pompons, ce genre de choses.
Même les décorations qu'on met dessus, ce sont des tissus recyclés. On utilise beaucoup de peluches qu'on recycle, de la laine qu'on recycle. Voilà, on chine aussi les accessoires. Tous nos personnages sont faits des fois avec des pyjamas d'enfants. Le principe même de notre démarche, c'est justement de mettre l'accent sur la recycle. On a envie de dire aux gens, même si vous achetez pas nos pulls, prenez un vieux pull et puis faites-le vous-même, décorez-le vous-même.
Mettez-y une belle intention derrière.
Oui, voilà. Soyez bon au pull moche.
Voilà, soyez beaux en pull moche, Blandine, Guillot et Sophie Leclerc. Il existe également un championnat du monde du pull moche. Il a eu lieu ce mois-ci à Albi. Malheureusement, le palmarès ne nous a pas été communiqué. Au générique de cette édition, merci à Charles Westrelin et Guillaume Roux en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal avec Anne Patinec à la rédaction en chef, assistée de Rachid Zourdani et Sébastien Donat. Un grand merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. Dans un instant, la météo.